Bonjour à tous. Ça va bien? Oui, ça va bien. Je commencerai par ces simples mots. Je vous aime. Répondez pas. C'était pas un pas cabane à sucre, ça. Non, pas parce que vous êtes aimable. Et j'espère que vous ne m'aimez pas parce que je suis aimable. Parce que si vous me connaissez assez, n'est-ce pas, Will? Will crie déjà « Amen ». Je ne suis pas aimable. Et vous ne l'êtes pas. En fait, je dirais que mon problème avec vous, c'est vous autres. Si vous n'étiez pas là, j'aurais pas de problème avec vous autres. Mais vous êtes là. Ce qui sous-entend qu'on va avoir des relations ensemble. Et qui dit relation dit difficulté. Et Paul, dans notre texte de Romains, et Michel nous a parlé des premiers versets de Romains chapitre 12. Et les deux premiers versets, Paul nous exhorte à nous offrir en sacrifice. Nous-mêmes. Et ensuite de ça, avoir une pensée qui est transformée, qui est métamorphosée. Et mon texte continue et veut l'appliquer dans le contexte des relations. Tout est relationnel. Et on va lire Romains chapitre 12, 1 à 5. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Cette semaine, j'aimerais regarder avec vous ce concept de communauté qu'on appelle « corps de Christ ». Et la semaine prochaine, on va continuer le texte avec les versets 6 à 8 et surtout les versets 6 et 7 en ce qui concerne les dons qu'il nous donne pour mettre en pratique dans ce corps. Quand on regarde dans la Bible et que la Bible parle du peuple de Dieu, que ce soit Israël ou l'Église, elle utilise plusieurs illustrations. Il y a des vérités qui sont difficiles à comprendre. On ne peut pas plonger dans partout, tous nos regards, puis tout comprendre. Alors, elle veut amener à notre intelligence une certaine compréhension. Et donc, elle nous donne des illustrations pour comprendre. Par exemple, il va parler de l'Église ou d'Israël comme d'une épouse, ou une vigne, ou un troupeau, un royaume, un édifice, un bâtiment. Mais il y en a une qui s'applique juste à l'Église. Et c'est l'image d'un corps. C'est jamais utilisé pour Israël. À moins qu'un spécialiste de l'Ancien Testament me dise que c'est appliqué, mais c'est appliqué seulement pour l'Église. Et regardons ce contexte. La métamorphose s'effectue en communauté. Michel nous a parlé du processus de la métamorphose. Et il a attiré notre attention sur « nous sommes ce que nous croyons ». Mais il nous a posé une question, et sa question était vraiment intéressante. Et le chapitre 12 martèle sur cette question. Et Michel nous a dit ceci, « de quelle manière ceux qui ont été justifiés par grâce doivent-ils se conduire dans leur vie quotidienne ?» Et l'exhortation nous dit, ne vous conformez pas au monde. Soyez renouvelés dans votre intelligence. Et tout ça va se faire dans la suite de notre texte, en communauté. La métamorphose, notre transformation est facilitée. Pas nécessairement facilitée, c'est pas un bon terme, mais augmentée dans l'Église. Pour résumer, le verset 2, une bonne citation de Robert Mans. La transformation dont parle Paul en Romains 12 n'est pas un changement effectué de quelque chose à l'extérieur de nous, mais c'est une réorientation radicale qui commence dans les profondeurs du cœur humain. Renouvelé dans notre intelligence. Et suite à ça, bien, on enchaîne avec le verset 3. Et la première chose qui est mentionnée suite à cette exhortation, à cet impératif d'être renouvelé dans notre intelligence, c'est quoi? C'est un appel à l'humilité. Et j'aimerais regarder avec vous ces trois choses avant qu'on applique ce texte. Les relations en vue de l'unité, la description qu'il fait de cette unité dans notre texte et aussi la création de l'unité. Et on arrive à ce verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. L'apôtre Paul commence ce verset en affirmant son autorité. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis. Mais en même temps, il manifeste, il affirme son humilité qui est appuyée à travers son témoignage. Par la grâce qui m'a été donnée. Pas parce qu'il est performant. Pas parce qu'il est tellement intelligent. Non. Mais quelle grâce? C'est une grâce qui lui permet de dire des choses avec autorité, qui lui permet d'établir des choses. Donc, c'est une grâce d'être apôtre. Et ça, on a vu ça dans le chapitre 1, où ce qui dit qu'il a été appelé à être apôtre. C'est pas lui qui a choisi. Il s'est pas levé un matin et qui a dit, moi, être un apôtre, moi. Non, non, c'est un appel, c'est une grâce qu'il a reçue et qui lui donne ce mandat de pouvoir dire des choses avec autorité. Mais en même temps, à ce point, la vie de Paul, son ministère était connu. Et c'était manifeste pour cette Église que, effectivement, Paul, dans sa vie, ce qui lui permet non seulement de dire des choses avec autorité, c'est que sa vie manifeste aussi l'humilité. Et le premier principe ou idée générale en présence dans notre texte, c'est que notre position ou les activités qu'on fait en tant que chrétien, c'est par grâce. C'est pas nos performances qui sont mises de l'avant. Et faisons quelques observations sur notre texte. Premièrement, ça s'adresse à chacun d'entre nous. Il y a une tendance à interpréter ce texte en désignant les leaders, les responsables d'Église. Ah, eux autres, là, après ça, ils vont avoir une liste de dons, là, tu sais, ceux qui enseignent la prophétie, les diacres. Ah, le texte doit s'appliquer à eux autres. Et on interprète parfois ce texte de cette façon, comme si nous, on était dispensés de « Ah, pas besoin d'humilité. » Ça, c'est la doctrine barre de savon. Hein? Tu sais, quand on pense qu'on l'a, c'est comme si on vient de la perdre. Tu sais, si je dis que tu es humble, en même temps, tu viens de perdre ton humilité. Tu sais, c'est quelque chose qui est dans notre vécu. Et souvent, on a besoin de se rappeler qu'on en a besoin. Mais c'est pour chacun d'entre nous. Mais c'est exprimé aussi négativement et positivement. N'ayez pas des prétentions excessives. Ne soyez pas orgueilleux. Mais positivement, il répète à l'inverse, ayez des pensées raisonnables, soyez modérés. Ayez de la modération. Ne visez pas les extrêmes. Ne soyez pas des extrémistes. Autre observation, ne tombez pas dans l'orgueil. Ou encore voir de la modération, c'est lié avec ce bout de phrase, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. C'est lié ensemble, c'est attaché ensemble. En résumé, l'exhortation, c'est que chacun d'entre nous doit avoir des pensées justes, sans orgueil, selon une mesure de foi que Dieu nous a donnée. Et si vous prenez des nuits à lire des commentaires sur ce passage, vous découvrirez que le gros des commentaires concerne ce petit bout de phrase, « mesure de foi ». Qu'est-ce qu'il veut dire? Deux interprétations de façon générale qui sont apportées. Mesure serait un peu l'équivalent, ben je vais le lire, je l'ai écrit. Selon ce point de vue, les croyants sont appelés à s'évaluer eux-mêmes en fonction du standard objectif de l'Évangile ou en référence avec le standard de leur foi, Jésus-Christ. Donc la mesure, c'est l'Évangile, c'est Christ lui-même. D'un autre côté, il y en a qui vont l'interpréter comme une quantité. D'un autre côté, ça ferait référence à une quantité, une mesure de quelque chose. Et après réflexion et des nuits à ne pas dormir, je suis arrivé à la conclusion que les deux peuvent être applicables. Entre autres, la deuxième. La deuxième rencontre dans le contexte du mot « mesure ». Mais ce que j'ai remarqué dans les commentaires qui mettent l'emphase sur « mesure » et là on s'ostine sur c'est quoi puis c'est comment puis comment qu'on fit ça, on perd de vue qu'il est en train de donner une mesure de quelque chose. Et ça semble clair dans notre passage qu'il réfère à une quantité de quelque chose. Une mesure de foi. D'ailleurs, trois versets plus loin, mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous est accordée. Donc, déjà là, on est exhorté à évaluer nos dons d'une valeur différente de l'un chacun. Et même encore là, au verset chapitre 14, faites bon accueil à celui qui est faible dans la foi. Donc, encore là, il semble avoir une quantité de quelque chose qui est donnée à des personnes. Mais, pourquoi faire appel à la foi? Chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Et j'aime pas le mot « standard », parce qu'il me semble que ça ne semble pas fitter dans le passage. Mais quand même, je crois qu'il veut donner quelque chose. Et voici mon interprétation. Le pilier de notre évaluation, ou encore le paradigme de notre évaluation, c'est le fait que Dieu donne la foi. La foi, c'est le pilier sur lequel on doit s'appuyer pour s'évaluer. Pourquoi pas simplement dire « Ayez des pensées raisonnables sur vos dons spirituels. Soyez modérés en ce qui concerne vos capacités. » Ça serait simple de le dire comme ça. Pourquoi mettre la foi de l'avant? Trois raisons que je vois dans ce texte. Paul fait de la foi le pilier de notre évaluation parce que c'est ce qui caractérise le chrétien renouvelé dans son intelligence. La foi regarde à quelqu'un d'autre. Elle dépend d'une autre personne. Voici ce que Paul dit. Les gens ont une tendance à s'enorgueillir quand ils pensent à eux-mêmes. Mais vous, chrétiens, faites de la mesure de foi le pilier de l'évaluation de votre vie, de votre cœur. En fait, c'est l'inverse de ce qu'on essaie de nous dire dans notre société. La foi, c'est quelque chose d'énorme. Il faut que tu aies une bonne estime de toi. Ça, c'est l'évaluation qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on arrive à ce que dans notre évaluation, on ait une bonne estime de soi. Et par définition, une bonne estime de soi, c'est clair, on va s'enorgueillir. C'est officiel. Le résultat de cette pensée, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir une bonne estime, là, qu'il faut tout être dépressif, là, c'est pas ça que je dis. Comprenez. Vous voulez avoir des bons sentiments? Regardez à Christ. C'est Christ qui vous donne votre valeur. C'est votre Créateur. C'est lui qui va vous donner votre valeur. C'est lui qui dit que vous êtes précieux. Et je vais être certain de bien vous faire comprendre. L'estime de soi est un concept poussé par la psychologie moderne, surtout à partir de Freud des années 1900. Je n'adhère pas à ce concept. Véhiculé comme la psychologie ou la psychanalyse d'aujourd'hui, j'adhère pas à ça. Parce que quand Dieu transforme une personne, il lui donne la foi. Et la foi regarde à Dieu. Elle regarde à Jésus. Et Jésus devient le trésor du croyant. Et c'est là qu'on va trouver notre valeur en tant que chrétien. Sinon, l'estime de soi, bien, si vous en voulez, bien, regardez en vous autres même. Puis regardez en vous autres même. Puis retournez en vous autres même. Ah, puis compte-moi tes problèmes. C'est ça qui fait un psychologue. Compte-moi tes problèmes, puis tourne là-dedans. Mais non, faut que tu changes tes pensées. Faut pas que tu penses comme ça. Tu sais, Isaïe, prenez l'exemple Isaïe. Tu sais, malheur que je suis. Tu sais, il y a une révélation du Dieu trois fois saint, puis mort à moi. Puis tu sais, hey, Isaïe, t'es le prophète de Dieu. Arrête, tu sais, faut t'aies une bonne estime de soi. Non. Prends conscience du péché dans ta vie, puis tu sais, l'estime de soi, c'est fini. Deuxièmement, Paul fait de la foi le pilier de notre évaluation parce que la foi ne se glorifie pas en elle-même. C'est un don de Dieu. Ça élimine l'orgueil de notre performance. Vous ne le méritez pas, puis je ne le mérite pas plus. Et permettez-moi d'illustrer ce point. L'an passé, je fais une prédication dans une région que je nomme pas. Et puis après la prédication, on m'invite au restaurant. Et puis là, ben, on se met à parler, puis tout ça, je suis le plus jeune de toute l'audience. Et puis je pose la question, quel est le portrait de votre région là, au niveau spirituel? C'est quoi les églises? T'sais, j'ai passé en avant d'une église, j'ai vu Témoin de Jéhovah. Comment que ça se passe? Et puis là, la discussion part. Puis là, tout le monde autour de la table, on est à peu près une douzaine. Puis, tu sais, sans dire un mot, à un moment donné, tu sais, je vois que la discussion est pimentée. Tu sais, c'est commence à être chaud, là. Puis, j'avais même pas d'affaires à m'en mêler, c'est pas pire. Mais, à un moment donné, là, ça commence. Puis là, on est arrivé aux non-chrétiens. Hey, moi, je fais pas ça. Puis moi, je fais pas. Ça a-tu du bon sens penser de même? Hey, on est-tu de même? Hey, j'ai écouté un reportage, puis moi, sont-tu, on va se le dire, imbécile. Voyons donc. C'est évident. Dieu a créé l'univers. Puis je dois vous avouer que je dois confesser que c'est une des luttes pour moi. Parce qu'à un moment donné, on débat avec les personnes, puis on devient froid. Ça, c'est un de mes problèmes. J'étais chez mon beau-père une fois, puis mon beau-frère était là avec sa blonde, puis à la fin de la discussion, on pose des questions, tu sais, création, évolution, résurrection, ces choses-là. Moi, pour moi, c'était mathématique. 1 + 1 = 2. Fait que les preuves, 5 fois, bon, qu'est-ce que t'attends pour croire? Mais elle m'a regardé, la blonde de mon beau-frère, puis elle m'a dit, puis mon beau-père était là, puis mon beau-père, c'est quelqu'un qui est très doux. Puis elle m'a dit, « Jean-Luc, j'aime pas vraiment parler avec toi parce que tu me fais peur. Mais elle dit, j'aime Rénal, mon beau-père, parce que lui, je sens qu'il m'aime. » Et ça m'est arrivé 2 fois, ça. Pas une, j'étais dur de comprendre. Et là, je retourne à mon restaurant parce que c'est une de mes luttes. Et là, je me suis dit, il faut que je me la ferme. Et là, on se retourne vers moi, puis ils me disent, « Pis, qu'est-ce que t'en penses? » Et là, j'ai répondu ceci. « Étions-nous si différents? » Ah, j'ai peut-être pas fait ce péché incroyable, là, parce que vous étiez tous religieux. J'ai peut-être pas fait ce péché qui vous semble impardonnable. Aux yeux de Dieu, mon petit péché, j'étais dans la même situation. La foi ne peut pas se glorifier elle-même parce que c'est un don de Dieu. Et Paul nous dit que je ne le mérite pas. mais en même temps, que c'est là qu'on va trouver notre valeur. Et troisièmement, Paul fait de la foi le pilier de notre évaluation parce que la foi est donnée dans des mesures différentes à chacun dans son peuple. À chacun. Et à ce point, la transition est faite pour nous expliquer quelque chose. En effet, au verset 4, « Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » Il commence à décrire c'est quoi le corps. C'est quoi l'Église? Alors, il décrit cette Église. Il la décrit, on voit au moins trois choses. Premièrement, en effet, comme nous avons plusieurs membres, ben, il y a plusieurs membres. Nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Ben, un seul corps. Des observations simples, vous suivez jusqu'à présent. Que tous les membres n'ont pas la même fonction. Donc, les membres n'ont pas la même fonction. Il décrit, c'est une illustration à partir d'un corps. C'est une évidence pour moi que j'ai plusieurs membres, mais je forme un corps. Quand il manque un membre à une personne, on appelle ça un problème. J'ai eu la chance, certains me disent que c'est pas une chance, mais moi j'ai eu la chance à l'université d'étudier et d'aller dans une cadavrière. Et on faisait de l'observation. Et là, il y avait un corps, il était tout ouvert, et puis là, on voyait tous les muscles, tout le système nerveux. Et une journée, on est arrivé, et puis là, il y avait un bras. Et là, je regardais ça. C'était un bras. Fait que la prof, elle dit, c'est un bras. Je dis, il n'y a pas de corps? Elle dit, non, on l'a coupé. C'est un problème. C'est un problème parce que sans corps, le bras, il est inutile. Il est inutile. Vous seul, comme chrétien, je ne veux pas dire que vous êtes inutile, mais vous ne serez pas complet parce qu'on a besoin des autres. On n'est pas des pièces détachées dans une espèce de puzzle géant. Pour qu'un corps fonctionne correctement, il faut que tous les membres travaillent ensemble. C'est évident. Évidemment, l'analogie veut expliquer quelque chose de spirituel, parce que l'essence même du corps physique, c'est quoi? Son unité. Il y a plusieurs membres, un seul corps. Alors, il applique ainsi, au verset 5, « Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » John MacArthur a dit ceci, « L'unité, c'est notre fondement, la diversité, notre fonctionnement. » Pour vous mêler un peu, Martin Lloyd-Jones a dit quelque chose aussi. La grande pensée à propos de ce corps, c'est que nous avons une variété dans l'unité ou une unité qui s'exprime dans la variété. Je suis heureux de vous annoncer que vous n'êtes pas comme moi. Puis regardez l'autre à côté, là. Vous n'êtes pas comme lui. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Il y a une variété. Mais un corps, c'est un organisme. Et non pas une organisation. Et tantôt, on va appliquer ce texte. Mais d'où vient cette unité? Ainsi, donc il fait référence à ce qui précède, donc cette illustration du corps. Et quand Paul, dans les différents textes qui parlent du corps, il réfère à au moins deux notions. Il peut référer, par exemple, dans Éphésiens 1, 22-23, à l'Église universelle. Donc, toutes les croyants sur toute la planète font partie du corps de Christ. Mais aussi, de façon particulière, il peut parler de l'Église locale. Par exemple, 1 Corinthiens 1, 27. 12, 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et puis là, il continue, puis il y a une description des dons, où ce que je vais les mettre en relation avec les autres. Et dans notre texte ici, j'aimerais aussi vous suggérer qu'il pense à l'Église locale, dans son fonctionnement, dans sa façon de fonctionner comme un organisme, et non pas comme une organisation. Il parle à l'Église de Rome. Il s'identifie lui-même avec cette Église-là au chapitre 1er, puis même dans notre chapitre aussi. Mais d'où vient cette unité? Regardez les deux petits mots qui sont vraiment intéressants. Nous formons un seul corps en Christ. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça signifie que l'unité de tous les membres du corps sont créés en Christ. C'est le corps de Christ. Autrement dit, nous sommes en relation avec Jésus-Christ. Nous sommes donc en relation les uns avec les autres. Christ crée des relations avec le croyant qui permet les autres relations entre nous. Mais l'expression est quand même intéressante. En Christ, je vous fais une courte liste là, dans... En Christ, nous recevons la grâce en Christ, 1 Corinthiens 1:4, Romains 3:24, notre rédemption en Christ, Galates 2:17, nous sommes justifiés en Christ, nous avons le pardon des péchés en Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation en Christ, 2 Corinthiens 5:17, nous sommes une nouvelle création en Christ, nous avons la vie éternelle en Christ. L'emphase des textes, c'est que Dieu fait une œuvre dans la vie du croyant. Mais en même temps, il veut que cette œuvre devienne ce qui est le plus important pour chaque croyant. Et notre texte ne diffère pas de toutes ces autres citations parce que Dieu, par sa grâce, agit en nous donnant la foi qui nous place dans son corps, qui nous place en relation avec les autres. Et ce que notre texte ajoute à tout ça, c'est qu'on vit ça en communauté. Pas isolé. C'est par l'Église, le lieu choisi par Dieu. C'est dans l'Église qu'il choisit de manifester sa grâce. Et en l'occurrence, dans notre texte, d'au moins trois façons. À travers des relations d'humilité, d'amour entre chacun. Dans notre communion ensemble. Dans notre unité. Et aussi, troisièmement, dans la manifestation de nos dons les uns envers les autres. Quelques applications. Ça vaut la peine ici de prendre une gorgée. La métamorphose s'effectue en communauté. Commençons par un côté négatif de la chose. Nous aimons parler de la grâce, surtout quand c'est nous qui se la faisons accorder. Mais quand c'est le temps de la faire à d'autres, là c'est problématique. Parce que des relations qui deviennent difficiles impliquent que dans ce processus, vous avez été offensé. Quelques réflexions pour vous. Si vous avez été blessé ou offensé dans l'Église, ou une Église. L'Église est le lieu de renouvellement du croyant. C'est là que Dieu manifeste sa grâce, c'est là qu'il veut qu'on grandisse, qu'on ressemble de plus en plus à Christ. Il veut qu'on devienne saint, qu'on devienne comme Christ. Et ça ne se fait pas isoler chez vous dans un coin de sol. J'en connais pas de bons chrétiens qui vont être chez eux le soir, toujours, tout le temps, qui fréquenteront jamais un autre chrétien. Moi, je ne veux pas faire de vous des chrétiens de 25 ans d'année de vie chrétienne, mais 25 fois un an de vie chrétienne. C'est pas ça le but. Parce que Dieu, dans votre vie, veut vous amener à la maturité. Et ça se fait dans le contexte de l'Église. Ce qui implique que vous pouvez être pour les autres une source de grâce. Et en même temps, Il y a d'autres personnes qui sont une source de grâce aussi pour vous. Et les raisons pour lesquelles les personnes quittent les églises sont exactement les mêmes raisons pour lesquelles ils devraient rester dans l'église. Combien de fois j'ai entendu « Ah, telle autre église, là, hey, il y a tel programme, telle affaire. Telle... » Ouais, OK, c'est correct. Mais toi, as-tu essayé de changer les choses? Ah non, mais pas vraiment, ben, je suis pas d'accord. Je change pas. Change les choses. Ben, ça, si ton travail t'amène à aller à l'extérieur, et que, oui, il y a des circonstances particulières, ce qui peut vous amener à changer d'église, mais Dieu ne nous appelle pas à quitter l'église pour se ramasser en solo chez vous. Par contre, il faut dire une chose, c'est que la grâce ne minimise jamais le péché. Ah, c'est beau parler de la grâce, mais ça a coûté cher à quelqu'un, ça. La grâce, elle a un coût. Le seul, l'affaire, c'est que ce n'est pas vous à la date qui l'a payé, c'est Christ. Mais il vous dit quoi? Je veux que tu deviennes saint dans le contexte d'église locale. Et ça, ça veut dire qu'il va y avoir des choses difficiles des fois à dire. Et ce n'est pas le fun. Mais l'église est là pour ça. Parce que quand je fais ça, je suis en train de manifester la grâce, je suis en train de bâtir l'unité, tout en minimisant pas le péché. Et troisième chose que j'aimerais vous dire, c'est que vous ne pouvez pas créer l'unité. J'ai essayé. Je ne peux pas créer l'unité. L'exhortation de Paul, c'est de conserver l'unité. Quatrième chose que j'aimerais vous dire, n'aimez pas l'Église à cause de l'Église. Aimez l'Église à cause de Jésus-Christ. L'Église est ce qu'elle veut pour vous. Et c'est exactement ce que votre Créateur a déterminé, ce qui était bon pour vous. Elle n'est pas parfaite, mais ça, c'est à cause de vous autres. Puis de moi. Puis de nous. Le plan de Dieu est parfait. Mais notre péché vient, on est une usine, comment Michel, une usine de désirs bons et mauvais, une manufacture à idoles. C'est ça qu'on est. Mais Dieu nous donne la foi pour qu'on regarde à lui et qu'on se repente. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire aussi, quelques autres applications. Michel posait la question, de quelle manière ceux qui ont été justifiés par grâce doivent-ils se conduire dans leur vie quotidienne? Je reformule la question en lien avec notre texte. Plus précisément, de quelle manière devons-nous nous conduire dans la vie quotidienne de notre communauté ici à Cap-la-Madeleine? Ou si vous venez d'un autre pays, mais dans pas long, il va rester avec nous. Mais... ou vous venez d'une autre église, la question qui est posée, c'est comment est-ce que vous vous conduisez dans votre église, le corps local? Je suis conscient qu'il y a des personnes qui viennent ici la semaine. Mais moi, ce qui me fatigue le plus, surtout dans nos mouvements d'église des frères, c'est que souvent, l'église est bâtie en fonction du dimanche. Et il est excessivement difficile, puis je me blâme moi aussi, là, il est excessivement difficile de construire quelque chose en dehors du dimanche. Mais l'église, ce n'est pas le bâtiment le dimanche. C'est les personnes qui viennent ici et qui repartent chez eux la semaine. C'est l'église pareil. C'est l'église du Cap. Peu importe, on s'en va en région. C'est là que le ministère aussi doit aller. L'évangile, qui est la vision centrale, devrait être la vision centrale de l'église, doit aller dans les foyers puis doit aller aussi dans notre communauté. Si ça reste seulement ici, le dimanche matin, des fois le soir, on a un problème. qui m'amène à dire qu'on ne peut pas gérer nos activités, nos ministères, nos ouvriers, nos enfants, nos diacres, et on en a une liste de 40 quelques, pour nommer juste ceux-là, de sorte qu'ils sont indépendants de la vision de l'Église. Dit autrement, un bras tout seul sur une table, c'est un problème. Mais si tout le monde gère ses 44 ministères de façon isolée, incluant les ouvriers, les diacres et tous les enfants, puis tous les autres, évangélisation, puis les autres, on a un problème. Paul nous exhorte à offrir nos corps en sacrifice, à ne pas se conformer au monde présent. On ne fonctionne pas comme une organisation, parce qu'on est tous des blocs séparés et qu'on remplit tous des papiers partout. On est un corps qui vit en unité. Quand l'Évangile n'est pas central dans la vision de l'Église, ce qui est atteint, voici ce qu'un auteur a dit, quand l'Évangile n'est pas central dans notre compréhension de la vie quotidienne, l'auto-examen, la repentance et la foi sont minimisés. Si l'Évangile ne déborde pas dans votre foyer, comment être modéré? Comment ne pas s'enorgueillir de mes projets à moi? Je marche en vase clos. La repentance va être minimisée, puis la foi aussi. Si on remplace Jésus-Christ par autre chose, bien, autre chose va venir remplir ça, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans votre vie, il y a quelque chose qui va remplir. Et à ce moment, on perd la capacité d'aider les gens à grandir dans la joie de la repentance et à grandir dans l'amour pour Jésus-Christ. L'Église, le cœur, c'est une manufacture à péché puis à idole. Pas l'Église. L'Église, c'est une manufacture à repentance pour qu'on trouve notre joie en Jésus-Christ. On doit viser l'unité, on doit aimer l'unité, on doit promouvoir l'unité dans nos groupes. Et ça, ça passe par une même vision. Peu importe comment on la formule. Ici, c'est grâce, tant mieux, c'est centré sur l'Évangile. C'est ça notre vision. On est dans un corps, celle de Christ. Mais c'est beau promouvoir une vision. Il faut la mettre en place. Je pose une question. Où voyez-vous l'Église dans 10 ans? Et quel est votre rôle dans les 10 prochaines années? Oui, c'est beau pour moi une vision, là. Il faut la mettre en place. La mettre en place, ça veut dire qu'il va falloir que je laisse des choses de moindre importance pour aller là-dessus, parce que c'est ça l'important. Autre chose que j'aimerais dire, Martin Lloyd-Jones a dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Vous ne pouvez pas être un chrétien sans désirer que l'unité fasse partie de votre être. Comprenez mes intentions, je ne suis pas ici pour vous accuser de quoi que ce soit. Je ne suis pas ici pour vous donner mes idées personnelles de comment on devrait faire les choses. Ce n'est pas mon but. En tant que prédicateur, ce n'est pas... Ce n'est pas à moi à faire ça aujourd'hui ici, là. Robert Chapman a dit ceci, puis j'ai vraiment trouvé ses paroles. Ma mission consiste à aimer les autres et non à être aimé des autres. Je ne veux pas faire des légalistes avec vous, parce que vous allez regarder seulement vos comportements. Il faut que je travaille pour l'Église. On n'est pas des robots. On est un corps. La vie chrétienne n'est plus que simplement de dire non à des mauvais comportements. Il s'agit d'être renouvelé de l'intérieur avec une passion grandissante pour Jésus. Renouvelé de l'intérieur avec une passion grandissante pour Jésus. Dieu veut qu'on devienne amoureux de lui. Et l'Église, c'est le terrain dans lequel il décide de le faire. Maintenant, je vais vous faire bouger un peu. Alors, regardez la personne à côté de vous qui n'est pas votre conjoint. Vous pouvez vous retourner, je n'ai pas de trouble avec ça. C'est fait? Maintenant, dites-vous dans votre tête, Dieu veut que cette personne devienne amoureuse de lui. Regardez encore une fois votre personne. On va reprendre l'exercice. Dites-y, Dieu veut que tu deviennes amoureux de Jésus. Allez! J'ai un deuxième exercice. Regardez-le et dites-y, Dieu veut m'utiliser pour ça. Allez! C'était pas une blague, là? Vous devez devenir amoureux. L'exercice n'est pas facile, hein? Ah, mais là, c'est ça, ça l'implique que moi, être obligé de t'appeler et de faire un souper de toi et exercer l'hospitalité, ça. Mais là, Jean-Luc, il a dit que t'étais un problème pour moi. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Dieu veut que vous aimiez votre église, et dans le contexte ici, c'est votre église locale, parce que l'unité, c'est une bonne chose. C'est sain. Faut la garder au centre. C'est un appel à aimer Jésus, à aimer l'église à cause de Jésus, à aimer vos frères et vos sœurs à cause de Jésus, à se donner pour eux à cause de Jésus, à avoir des pensées renouvelées à cause de Jésus puis de l'Évangile. Aimer l'église simplement parce que Jésus l'aime et que vous aimez Jésus. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui est vivante. Paul nous laisse un témoignage d'humilité et d'autorité. Et moi, le premier, Seigneur, je dois demander pardon parce que je voudrais être plus autoritaire que humble. Il y en a qui veulent tellement être humbles qu'ils ont de la difficulté à avoir de l'autorité. Mais aide-nous à être modérés. Tu nous donnes une foi à chacun, tu ne nies pas nos personnalités. Tu nous appelles à aimer l'Église, à aimer nos frères et sœurs, parce que toi, tu les aimes et tu t'es donné pour elles. Aide notre Église à conserver l'unité à cause de ton nom, pour ta gloire. Que l'Évangile se répercute dans nos ministères, une même vision, un seul corps. Que l'Évangile se répercute dans les foyers. Un seul corps. Toute la semaine. Toujours, tout le temps. 24 heures sur 24, Seigneur. Aide-nous à désirer ça. Aide-nous à travailler. Aide-nous à le mettre en place, Seigneur. Que ta parole soit bénie. Amen.